est 20h à Paris, même heure à Budapest, et c'est donc l'heure de votre émission d'actualité internationale et de géopolitique.
À l'oreille du monde,
géopolitique et actualité internationale.
Un samedi par mois,
à 20h,
sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bienvenue dans À l'oreille du monde. Je suis Léo LB et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage de l'actualité internationale. Ce soir, direction la Hongrie.
Azt vállaltuk, hogy Donald Trump visszatérése után...
Nous avions promis qu'après le retour de Donald Trump, nous, les Hongrois, marcherions à nouveau sur la grande avenue de l'histoire. Tandis que nos adversaires erraient dans des ruelles boueuses de banlieue. C'est exactement ce qui s'est produit. Si les choses continuent ainsi, ce siècle sera celui de l'humiliation de l'Europe. Viktor Orbán, premier ministre de la Hongrie, prononçait ces mots lors de son discours sur l'état de la nation le 14 février dernier. La Hongrie est pourtant bel et bien membre de l'Union européenne, mais à travers son dirigeant, elle tient des propos anti-européens et va à rebours des idées partagées par le reste des pays membres. Pour exemple, prenons le blocage de l'aide de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, Orbán met son veto. Et puis le premier ministre hongrois semble avoir des relations privilégiées avec Donald Trump et Vladimir Poutine, contrairement au reste de l'Europe. Notre objectif ce soir, c'est de comprendre la Hongrie actuelle et le personnage de Viktor Orbán, qui d'ailleurs se présente à sa réélection pour les législatives d'avril prochain. On en reparlera. Et comprendre, ça passe par interviewer Thibaut Gibelin, spécialiste de la Hongrie et de ses relations diplomatiques. Il répondra à mes questions tout à l'heure. En fin d'émission, Florent nous donnera son pas de côté. Mais avant tout ça, je vous donne la carte d'identité de la Hongrie. Merci d'écouter À l'oreille du monde. On est en direct jusqu'à 20h30.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Partons pour la Hongrie, un petit pays enclavé en Europe centrale. D'une superficie de 93 000 km², elle est entourée par 7 pays, l'Autriche, la Slovaquie, la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et enfin l'Ukraine. Même si elle n'a pas d'accès direct à la mer, la Hongrie dispose de nombreux cours d'eau. Les plus connus sont le Danube, qui la traverse sur 447 km, et le Tisza, qui est son affluent. En Hongrie, les rivières sont très importantes car elles participent à l'économie du pays grâce aux activités halieutiques et au transport maritime de marchandises. En parlant économie, les secteurs clés de l'économie hongroise sont l'industrie automobile, avec des usines BMW et Audi par exemple, l'électronique aussi, ainsi que le secteur pharmaceutique. Bien que membre de l'Union européenne depuis 2004, la Hongrie n'a pas adopté l'euro, sa monnaie est donc le forint hongrois, noté HUF. Parlons démographie. La population hongroise s'élève environ à 9,6 millions d'habitants et elle est en train de décroître et de vieillir, comme dans de nombreux pays européens. La majorité ethnique en Hongrie, ce sont les Hongrois, aussi appelés les Magyars. On trouve ensuite des minorités roms et allemandes. 1,7 million d'habitants vit à Budapest, la capitale hongroise. Une caractéristique intéressante aussi de la Hongrie, c'est sa langue. Le hongrois, c'est une langue quasiment unique et isolée. Au milieu des langues indo-européennes se trouve donc cette langue finno-ougrienne. Elle est réputée pour être assez complexe à prononcer. Pour comprendre la Hongrie et comprendre les Hongrois, il faut comprendre l'histoire du pays. En quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est que la Hongrie a été plusieurs fois sous domination étrangère et ses frontières ont bougé au cours de son histoire. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Trianon en 1920 ampute le pays de 2/3 de son territoire et plusieurs millions d'Hongrois se retrouvent hors des nouvelles frontières. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie s'allie à l'Allemagne nazie avant d'être occupée en 1944. Après la guerre, elle passe sous domination soviétique et devient un régime soviétique, un régime communiste, jusqu'à la chute du bloc de l'Est en 1989. La Hongrie devient alors une démocratie, entre dans l'OTAN en 1999 et entre dans l'Union européenne en 2004. Depuis 2010, le pays est dirigé par Viktor Orbán et son parti nationaliste, le Fidesz, réélu à 4 reprises. On va justement parler de ce fameux Viktor Orbán avec mon invité Thibaut Gibelin.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Thibaut Gibelin, bonjour, bienvenue. Vous êtes diplômé en histoire et en sciences politiques, spécialiste de la Hongrie, de ses relations avec l'Union européenne. Vous avez notamment écrit l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale », disponible aux éditions Fauve. Par ailleurs, vous enseignez au Matthias Corvinus Collegium à Budapest. Merci d'avoir accepté cet entretien. On va essayer ensemble de comprendre la situation hongroise actuelle et la politique de Viktor Orban, pour ensuite analyser la position de la Hongrie dans l'Union européenne et évidemment décrypter ses relations diplomatiques avec notamment la Russie et les États-Unis de Donald Trump. En fin d'interview, on retournera à l'échelle nationale pour parler des élections législatives qui approchent et qui pourraient renverser le parti au pouvoir. Parlons de Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie au pouvoir depuis 2010, ce qui fait d'ailleurs de sa longévité la plus grande pour un chef de gouvernement dans l'Union européenne. Mais si on se concentre sur la Hongrie en elle-même, j'aimerais vous demander, Thibaut Gibelin, qui est ce personnage Viktor Orban? D'où vient-il et surtout comment qualifier sa politique?
Bien, Viktor Orban, c'est donc le Premier ministre de la Hongrie. Il l'a été une première fois entre 1998 et 2002. Puis il est revenu au pouvoir en 2010 et il exerce donc ses fonctions avec une très solide majorité au Parlement, c'est-à-dire avec les deux tiers des sièges. Pour comprendre la spécificité de cet homme politique au sein de l'UE, comprendre que bon, il a 63 ans maintenant, donc il est né dans la Hongrie socialiste, il a fait ses armes dans l'engagement politique dans la dissidence anticommuniste. Et donc son engagement politique, c'est celui d'une jeunesse qui avait perdu toutes ses illusions sur le socialisme, le collectivisme, qui voulait sortir de ce carcan, mais avec la volonté d'une renaissance nationale. Et assez rapidement, Viktor Orban s'est séparé des tendances libérales qui existaient aussi évidemment dans le sein de cette jeunesse anticommuniste, et qui, eux, simplement aspiraient à une forme de mimétisme vis-à-vis de l'Occident. Alors, Viktor Orban donc, a construit un parti politique à partir de 1988, l'Alliance des Jeunes Démocrates, ce qui est l'acronyme de Fidesz en hongrois. Ce parti l'a fait entrer au Parlement dès les premières élections libres en 1990, si bien que Viktor Orban siège au Parlement depuis 36 ans. Et en 2010, l'Union européenne était déjà une réalité pour les Hongrois, puisque la Hongrie a intégré l'UE en 2004. C'était aussi un moment où des grandes difficultés économiques et financières avaient déjà ébranlé l'Occident, c'est la crise de 2008 et de 2009. Et donc c'est dans un contexte dans lequel, finalement, la Hongrie avait perdu certaines des illusions hein, vis-à-vis de l'Occident comme étant finalement une fin de l'histoire tout à fait idéale, où tout irait bien. Voilà, donc Viktor Orban a construit une politique sur mesure
libérale
pour son pays. Pardon ?
On la qualifie souvent d'illibérale, c'est ça ?
Alors, dès 2014, en effet, après sa première réélection, où il remporte encore les deux tiers des sièges, qu'en 2014, Viktor Orban fait un discours de politique générale où il explique que il défend un modèle illibéral pour la Hongrie, c'est-à-dire que la démocratie qui est la prise en compte des besoins et des volontés populaires ne se fait pas nécessairement par le moyen voilà, de l'idéologie libérale. Et c'est cette tendance en effet qui est développée, puisque depuis une quinzaine d'années, l'Europe particulièrement est confrontée à des difficultés, à un déclassement international, et la Hongrie entend puiser dans ses ressources, dans sa culture politique, dans ce que la vie intellectuelle occidentale propose, mais aussi dans ce qu'il peut y avoir d'antérieur voilà, au libéralisme occidental. Et c'est cela qui fait de la Hongrie un pays exceptionnel aujourd'hui en Europe, hein, c'est que c'est un modèle politique qui se construit à contre-courant de l'évolution générale du continent.
Et cette construction à contre-courant lui attire souvent les foudres de l'Europe. Et on entend parfois parler aussi de régime démocrature. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait être pour la Hongrie?
Une démocrature, en fait, c'est un mot fabriqué à partir de démocratie et de dictature. Donc c'est un terme de l'opposition de gauche qui dénonce le pouvoir du Fidesz et de Viktor Orban comme une anomalie, comme quelque chose qui est même moralement blâmable et qui entend faire passer au second plan les succès économiques et le soutien populaire dont jouit Viktor Orban pour insister sur le fait que la Hongrie serait à la dérive. Voilà. Concrètement, la Hongrie fait partie de l'Union européenne, la justice est indépendante, les médias sont assez variés dans leur affiliation idéologique, il n'y a pas de bloc monolithique. Ceci dit, par exemple, pour Internet, c'est plutôt des tendances libérales qui mènent le bal, parce que la jeunesse urbaine est la plus active sur Internet, et pour la presse quotidienne de province, c'est évidemment plutôt c'est même assez nettement des médias pro Fidesz qui ont un quasi-monopole.
Alors, on l'a vu, la Hongrie est entrée dans l'Union européenne en 2004, mais Viktor Orban, très régulièrement, prend de nombreuses positions anti-européennes ou parle à l'inverse d'un complot bruxellois contre lui, contre la Hongrie. Comment expliquer que la Hongrie soit aussi distante et critique envers l'Union européenne qu'elle a rejoint ?
L'Union européenne connaît une évolution propre. C'est-à-dire que l'Union européenne de 2004 n'a plus grand-chose à voir avec celle que nous avons aujourd'hui. C'est plutôt que mouvement social ou chaque crise qui a traversé l'Europe a été exploitée par l'échelon communautaire pour fabriquer une puissance tutélaire européenne d'ordre quasi fédéral. C'est le cas avec la crise migratoire où du coup l'Union européenne s'arroge le droit de décider de quotas de migrants à imposer aux pays considérés comme des baraquements chargés de garder des individus. La Hongrie refuse cela. Et donc, ces dispositions n'existaient évidemment pas avant la crise migratoire. Et la Hongrie entend simplement laisser le niveau d'intervention de l'UE là où il était. Il y a aussi plus grave, c'est que l'Union européenne est de plus en plus présente et joue un rôle assez décisif, mais elle ne joue pas le bon. C'est-à-dire que quand il y a la politique commerciale est une compétence exclusive de l'UE et l'UE n'arrive pas à imposer un bras de fer à Donald Trump et à l'Amérique du Nord en général. C'est-à-dire qu'en juillet dernier, Ursula von der Leyen a signé un accord préliminaire avec Donald Trump qui est extrêmement défavorable à l'Union européenne. L'Union européenne qui est si bruyante sur des aspects idéologiques, sur des aspects d'état de droit avec une interprétation très extensive du sujet, n'est pas à sa place quand il s'agit d'établir un rapport de force avec notre principal concurrent commercial que sont les États-Unis.
On va en reparler justement juste après des États-Unis. Donc vous nous dites que la Hongrie en fait, n'a pas signé pour l'Europe actuelle, pour ses grandes réformes. Et un point justement très important de divergence entre Viktor Orban et le reste des dirigeants européens, c'est évidemment la Russie. Le Premier ministre hongrois et le président russe entretiennent de plutôt bonnes relations. Orban est allé plusieurs fois en visite à Moscou. Là-bas, il y est même présenté par Vladimir Poutine comme le représentant de l'Union européenne, ce qui a le don d'agacer Ursula von der Leyen. Ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est la nature de cette relation bilatérale. Qu'est-ce que Moscou et Budapest ont à s'apporter mutuellement ?
Alors, il faut comprendre que la Hongrie n'aime pas, les Russes n'aiment pas, les Hongrois n'aiment pas beaucoup les Russes, voilà, il n'y a aucune sympathie particulière. On est sur une relation purement pragmatique. La Russie est la continuation continentale de l'Union européenne. C'est un marché assez important et c'est surtout la plus grande réserve de gaz et de pétrole, donc de ressources naturelles qui sont absolument nécessaires pour le fonctionnement de l'industrie européenne. Donc la complémentarité euro-russe va de soi. Et la guerre en Ukraine a été voulue et appuyée par les États-Unis dans leur tendance l'État profond démocrate de gauche, mais c'est bien l'intérêt des États-Unis qui était manifesté là-dedans, qui est de séparer l'Europe de la Russie pour affaiblir l'une et l'autre, et pour garder l'Europe dans la dépendance des États-Unis. Donc dans ce contexte-là, la Hongrie, elle, plaide pour la paix. Voilà. Le fait que l'Ukraine soit un pays neutre était la situation de base. Les efforts faits pour attacher l'Ukraine au bloc occidental ont conduit à la crise actuelle. Donc dans cette situation, la Hongrie, elle, entend simplement préserver, sanctuariser les relations sur le plan énergétique, puisqu'elles sont absolument nécessaires, de façon générale à l'industrie européenne, mais absolument pour la Hongrie, puisque c'est 80% du pétrole consommé en Hongrie qui vient de Russie. Voilà, donc c'est vraiment sur cet aspect énergétique que se joue la complémentarité et la dépendance de la Hongrie vis-à-vis de la Russie. Et c'est évidemment du coup une pomme de discorde vis-à-vis de l'UE depuis la guerre en Ukraine.
Alors, avant de continuer notre interview, je vous propose une pause musicale, locale, avec la chanson Nel Kuled du groupe hongrois Ismerich Arshtok. Elle parle du bonheur de se retrouver entre proches et surtout de la souffrance de se retrouver loin de ceux qu'on aime. Ça fait évidemment référence à la population hongroise qui vit hors des frontières de la Hongrie, en partie à cause des traités historiques. On se retrouve dans un instant sur Radio Campus Paris pour continuer notre interview.
Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted. Amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.
Écoutez toujours à l'oreille du monde. Il est 20h19 à Paris et à Budapest. On continue de parler de la Hongrie avec Thibaut Gibelin. Intéressons-nous maintenant à la relation diplomatique entre la Hongrie et les États-Unis de Donald Trump.
À l'oreille du monde.
Géopolitique. Un samedi par mois à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Alors, vous l'avez dit, la Hongrie importe beaucoup de gaz et de pétrole russe, qui est sanctionné par l'UE, mais elle a obtenu auprès de Trump d'être exemptée des sanctions américaines sur le pétrole russe, ce qui souligne là encore une relation presque privilégiée entre la Hongrie et les adversaires de l'Union européenne, en l'occurrence ici les États-Unis. Plus généralement, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Premier ministre hongrois n'arrête pas de mettre en avant, de jouer ce très bon dialogue avec les États-Unis de Donald Trump. Mais la question qui me vient en tête, c'est... finalement, à qui profite le plus cette relation diplomatique entre les États-Unis et la Hongrie ?
Alors, d'abord, le gaz et le pétrole russes ne sont pas sous sanction, quand ce qui concerne la Russie, par l'Union européenne non plus. L'exemption couvre toujours la Hongrie. Les États-Unis ont validé cela. Et en effet, Donald Trump a du respect. En fait, c'est une question d'estime personnelle entre Viktor Orban et Donald Trump. n'y a pas d'intérêt vraiment important, hein, évidemment, pour les Américains d'être appréciés par un pays enclavé de 10 millions d'habitants. C'est plutôt que Donald Trump est particulièrement seul dans le monde occidental à oser un leadership plus personnel et à vouloir sortir en fait, du consensus de gauche mondialiste qui a l'ascendant sur le continent. Donc il voit en Viktor Orban un chef d'État qui finalement justifie ce pivot. Et l'idée pour l'un comme l'autre, c'est de dire qu'ils sont à l'avant-garde d'une nouvelle donne de la politique occidentale et pas du tout des marginaux qui feront long feu. Alors en revanche, pour Viktor Orban, cette situation elle est très bénéfique puisque évidemment les États-Unis dominent de la tête et des épaules le bloc occidental et donc ça couvre d'une certaine manière la Hongrie. Par exemple, la Hongrie parie beaucoup sur l'énergie nucléaire. Il y avait des blocages au niveau de la justice européenne pour empêcher ce développement de projets nucléaires en Hongrie. Et les accords passés avec la Maison Blanche ont fait que maintenant la centrale est en pleine construction. Et comme rien n'est gratuit avec Donald Trump, la Hongrie achète une partie de son combustible nucléaire à une entreprise américaine. Voilà, c'est ce genre d'accord qui est en faveur objectivement de Budapest. Et la visite de Marco Rubio aussi, il y a quelques semaines à Budapest, qui a permis de témoigner de la relation constructive qu'entretiennent la Hongrie et les États-Unis.
Ce qui est sûr, c'est que Viktor Orban joue énormément sur sa proximité avec Donald Trump pour sa campagne des élections législatives d'avril prochain, 11 et 12 avril prochain, il me semble, qui déterminera donc sa réélection ou non. Viktor Orban fait aussi campagne contre l'Ukraine et ces dernières semaines, on a vu en effet la tension monter entre Kiev et Budapest sur plusieurs sujets. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment la question ukrainienne s'est immiscée dans ces élections nationales en Hongrie ?
Alors, vis-à-vis de l'Ukraine, la question est vraiment très intéressante puisque c'est en effet le levier principal de la campagne électorale dans ces dernières semaines. Il y a eu une célébration, une fête nationale le 15 mars. Le slogan retenu par les Hongrois, c'était « Nous ne serons pas une colonie de l'Ukraine », hein, qui reprend un slogan antérieur qui était « Nous ne serons pas une colonie de Bruxelles ». Bruxelles et Kiev deviennent en fait des adversaires quasiment identiques puisque l'UE s'appuie sur Kiev pour essayer de faire plier la Hongrie. Pourquoi ? Parce que, ce fameux oléoduc Droujba qui amène le pétrole russe jusqu'en Ukraine, jusqu'en Hongrie, traverse l'Ukraine. Et donc, Vladimir Zelensky a décidé à la fin du mois de janvier de couper cet oléoduc en arguant de bombardements qui avaient eu lieu sur cet oléoduc. La décision est en fait politique. Il y a le refus que des experts internationaux viennent observer ce qu'il en est. Et donc, le but, c'est d'étrangler, et sur le plan énergétique, la Hongrie, de susciter une crise économique et de faire tomber le gouvernement. Donc, on est vraiment sur un chantage très fort. Et par ailleurs, l'Ukraine est dans une tension extraordinaire compte tenu de la guerre qu'elle soutient face à la Russie. Et donc, Volodymyr Zelensky a eu des excès de langage particulièrement dommageables pour sa communication. Il a notamment menacé Viktor Orban, un ancien général du renseignement ukrainien a même menacé la famille, les proches de Viktor Orban. Donc ça a été abondamment commenté dans la presse hongroise et ça a fait véritablement passer les Ukrainiens pour des gens qui ne sont absolument pas des alliés. D'autant plus que la menace qui pèse avec cette guerre qui continue et l'engagement de l'UE aux côtés de l'Ukraine, c'est que des jeunes Européens soient mobilisés pour combattre en Ukraine. C'est notamment le cas avec ce que avait dit le général Mandon en France et qui a été très repris évidemment par repris en Hongrie. La volonté de préserver la jeunesse hongroise d'une guerre sous des drapeaux étrangers. L'un des arguments de campagne phares du Fidesz.
On va suivre ces élections hongroises dans À l'oreille du monde sur Radio Campus Paris. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les sondages hongrois ne sont pas très révélateurs. Ils se contredisent. Certains sondages commandés par Tisza donnent le Tisza nettement devant le Fidesz, le parti de Viktor Orban, tandis que d'autres sondages commandés par des institutions proches du gouvernement donnent au contraire le Fidesz devant le Tisza. C'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup Thibaut Gibelin d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous avez écrit l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale », disponible aux éditions Fauve. Merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup.
Et nous, on termine cette émission avec le pas de côté de Florent. Et un pas de côté cosmopolitain aujourd'hui.
Un pas de côté qui va nous conduire de Budapest, puisque nous sommes en Hongrie aujourd'hui, à New York, en passant par Istanbul. Quel est le point commun entre Gergely Corachon, Ekrem İmamoğlu et Zordan Mamdani ? Tous les trois ont été élus à la tête d'une métropole importante et sont devenus des figures d'opposition à l'État central. On aime dire que Budapest est la vitrine de la Hongrie. Depuis 2019, c'est aussi la vitrine de l'opposition. Enfin, d'une opposition, celle que porte Gergely Corachon, dont l'ADN politique est écologique et social, et qui s'est imposée comme l'un des principaux adversaires de Viktor Orban. Le conflit se joue d'abord sur le terrain des valeurs. Quand le gouvernement veut interdire la marche des fiertés LGBT au nom de la protection de l'enfance et fait voter une loi en ce sens, le maire, lui, soutient l'événement et appelle les Hongrois à descendre massivement dans la rue. Résultat, près de 200 000 personnes participent à la Pride le 28 juin 2025, malgré l'interdiction. Un succès salué par de nombreux pays et députés européens qui voient la défense d'un droit fondamental garanti par les traités que la Hongrie a signés lors de son adhésion à l'Union européenne en 2004. L'autre front de la bataille, c'est l'argent. L'État hongrois a méthodiquement asséché les finances de la capitale, baisse des dotations budgétaires et envolée de la taxe de solidarité. Officiellement, ce prélèvement national est imposé aux grandes villes pour redistribuer des ressources vers les communes rurales plus pauvres. Dans les faits, pour Budapest, cette taxe a été multipliée par presque 20 depuis l'arrivée de l'opposition à la mairie. Le maire parle du prix de l'opposition, on comprend pourquoi. Ce bras de fer entre une métropole frondeuse et un pouvoir central, on le retrouve à Istanbul. En 2019, l'opposition y gagne la mairie, l'élection est annulée, puis rejouée et remportée à nouveau par le même candidat, Ekrem İmamoğlu. Là aussi, le pouvoir central mobilise l'arsenal financier, juridique, administratif, pour reprendre la main sur les ressources stratégiques de la ville. Devenu l'un des principaux rivaux du président Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu est suspendu puis emprisonné au terme de procédures largement considérées comme politiques. Cette fois, le prix de l'opposition se paye en années de liberté. Autre décor, autre style, mais même scénario à New York. Le nouveau maire, Zoran Mamdani, figure montante de l'aile gauche socialiste du Parti démocrate, porté par un électorat jeune et diversifié, lui-même musulman, Zoran Mamdani a remporté une victoire que Donald Trump et les milieux financiers de l'immobilier auraient bien aimé éviter. Un succès électoral qui, au passage, bouscule aussi l'établissement démocrate. Budapest, Istanbul, New York, trois villes, trois régimes, mais un même réflexe. Quand la capitale ou la métropole devient le laboratoire d'une autre politique, le pouvoir central se crispe. Reste à savoir qui tiendra le plus longtemps du laboratoire ou du gardien de la ligne officielle.
Merci Florent et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté, d'avoir suivi cette émission. Si la géopolitique continue de vous intéresser, je vous donne rendez-vous le samedi 18 avril à 20h pour une nouvelle destination. En attendant, vous pouvez écouter les anciennes émissions sur le site de Radio Campus Paris ou sur toutes vos applications de podcast, que ce soit Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Merci d'être fidèle à l'oreille du monde, l'émission qui décrypte les coups de tonnerre et les murmures du monde. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.